Oui, et ce matin, ben, pour la commission Gravel-Fontaine, nous avons la portion Fontaine. Isabelle, salut!
Bon matin, la moitié!
Hélène qui devait s'absenter, c'est bien correct aussi. Andy Rubin, on parle de cet homme pour le commun des mortels, veut absolument rien dire. C'est le créateur d'Android.
Exactement. Donc maintenant, Android, hein? Ça veut dire quelque
sur
chose
les plateformes,
pour
là,
beaucoup
votre Samsung
du monde.
Ou les autres, là, vous utilisez une plateforme Android. Ben lui, c'est le créateur derrière tout ça. Il aurait commis des gestes réprochables.
En fait, il aurait eu forcé un rapport sexuel avec une femme avec qui il entretenait une liaison à l'époque, qui était elle aussi dans l'organisation, elle aussi chez Google. Quand ça a été révélé, Google, à ce moment-là, aurait jugé que ces allégations-là étaient sérieuses ou probablement fondées et aurait décidé de remercier M. Rubin en lui offrant ce qu'on appelle un exit package, une espèce de prime de départ d'une valeur totale de 90 millions de dollars.
Et là, dans le temps, on est avant la fameuse vague du MeToo.
Exactement. Avant MeToo, avant Weinstein, avant Gomeshi. Tu sais, à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Google en quelque sorte? Ils ont pris cette personne-là, puis là, il est tout question de deux autres personnes, deux autres hauts dirigeants à qui serait arrivé un peu le même genre d'affaires. Ils ont sorti ces personnes-là de l'organisation, évité des litiges juridiques, évité aussi que ces personnes-là aient créé une concurrence ou protégé un peu leur business. À ce moment-là, avec des ententes de confidentialité, des packages de sortie, tout ça. Bon, ça, c'était avant MeToo. Ce que je remarque, en fait, dans cette histoire-là, c'est que les choses ont évolué à deux volets. La première affaire, c'est les règlements en cachette, des ententes à l'amiable, des clauses de confidentialité qui souvent mettent les victimes de côté, qui sont souvent des femmes, qui les gardent dans l'ombre avec leur souffrance, ça tient plus. T'sais, on en a vu là, dans l'affaire Weinstein puis dans d'autres affaires, des ententes de confidentialité ou des règlements confidentiels qui ont été dévoilés par la suite. Je pense que de plus en plus, on risque d'en voir d'autres. Aujourd'hui, tu ne peux plus te cacher comme ça.
Et tu cites des règlements. En même temps, il y a une immense prudence à y avoir de la part de l'entreprise. Tu citais Gomeshi tantôt, il a été acquitté. Puis en bout de ligne, tu te rends compte qu'il y a peut-être eu une espèce de collusion ou complicité de la part de certaines femmes. Donc, tu dois avoir une certaine prudence dans tes ententes, mais l'aspect caché et secret, tu ne peux plus avoir ça. Puis de faire semblant que ça n'existe plus dans une entreprise non plus.
Non, exactement. T'sais, puis le deuxième volet de ça, c'est que hier la réaction de Google, ça a été de dire « Depuis deux ans, on a mis en place de nombreuses pratiques et on a licencié, il disait, 48 personnes sur la base d'allégations de harcèlement sexuel ou d'agression ou de trucs de ce genre-là qui ont jugé fondés. » Donc, dans le fond, ils ont évolué, ils ont mis en place des politiques. Moi, ça m'amène à dire, tu sais, les choses bougent, pas assez rapidement, c'est pas encore parfait, mais en même temps, aujourd'hui, là, quand tu es une organisation sérieuse de quelque taille que ce soit, tu devrais déjà avoir agi en la matière.
Une politique au moins qui existe. Là.
Une politique qui existe, un processus de dénonciation, peut-être même dans une organisation de petite taille, identifier une personne dans l'organisation puis dire aux employés si vous vous sentez inconfortable dans une situation où vous voulez rapporter quelque chose, parler avec cette personne-là, c'est la personne identifiée pour recueillir confidentiellement des propos. T'sais, je veux dire, il faut avoir agi, il faut avoir réfléchi sur la question, puis il faut s'assurer que nos employés sont en sécurité à cet égard-là.
Rappeler un courriel, rappeler une ligne, rappeler la personne responsable.
Exactement,
comme tu
dis. Il y a plein de moyens. T'sais.
Et c'est une façon à la fois de bien répondre à des actes répréhensibles, mais aussi de se protéger.
Aussi de se protéger, absolument.
Et d'assurer la pérennité de votre entreprise. Vous ne savez jamais, mais on a une bonne business, on a une dizaine d'employés. Ouais, mais attention.
Ça ne se passe pas chez nous. Hey, une femme sur cinq a été victime dans sa vie d'agression ou d'un incident à caractère sexuel. Ou... Une femme sur cinq. Là. Oh, oui. Réfléchissez autour de vous, les femmes, il y en a une sur cinq à qui c'est arrivé.
Exact. Si on compare cette fois deux traitements similaires, mais une réponse différente. Évidemment, quand tu formes un gouvernement, tu dois te choisir des ministres qui, non seulement, voient une immense bonification dans leur salaire, mais surtout, trouvent peut-être une raison d'être en politique. Parce que là, tu as un poste décisionnel, tu influences la direction.
C'est sûr que tu es au cœur du pouvoir quand tu es au Conseil des ministres. Puis tu sais, à l'entrée d'un nouveau gouvernement, le buzz se passe autour de ça. Qui sera au Conseil des ministres? Puis on en a parlé tellement ensemble, Steve. C'est une...
Mais tu peux pas nommer tout le monde. Non. Et ça a été reproché tellement souvent à d'anciens gouvernements péquistes et libérales d'avoir toute une série de ministres en limousine qui coûtent très cher. Puis aussi, même d'un point de vue décisionnel, à un moment donné, c'est pas aidant.
Non.
T'en as juste trop. Sauf que là, tu as deux députés qui n'ont pas été pris et qui s'attendaient à l'être, et de façon raisonnable aussi. André Bachand, dans le comté de Richmond, politicien d'expérience, puis bien des gens disaient, il me semble, Bachand va être pris, n'a pas été pris pour l'instant. Et la députée caquiste, Claire Sanson, elle veut partir, puis lui, c'est différent.
Ben oui, deux réactions complètement différentes. C'est intéressant de voir ça. Bon, Claire Sanson, on l'a vu, C'est une députée caquiste depuis 2014, Dominique vous en a parlé ce matin, une femme avec une carrière exceptionnelle qui a finalement pas accédé au Conseil des ministres puis qui a quitté la salle jeudi amère avant la fin de l'assermentation de ses collègues qui devenaient ministres. D'un autre côté, tu as André Bachan qui lui aussi pourrait être amère, tu sais, candidat vedette dans notre région, tout le monde le voyait ministre, tous les journalistes lui ont posé la question dans la semaine qui a suivi l'élection. Monsieur Bachan, vous voyez-vous au Conseil des ministres? T'sais, à un moment donné, ça finit par travailler son homme, puis il n'y a même pas de ministre en Estrie. Mais là, tu as deux réactions différentes. Elle, amère, mais en même temps, pourquoi elle n'a pas été nommée? Représentation régionale, peut-être? Sur les 8 circonscriptions qui entourent la sienne, il y en a 5 qui sont représentées par un ministre à l'heure actuelle. Il y a la question de la parité, puis du nombre de ministres.
Sur la parité, aussi, ça a l'avantage, parce qu'on voulait plus de femmes.
Ça l'aurait dû. Mais on les a trouvées.
Et en même temps, ça ne peut pas se dire, là. Mais elle a un problème d'âge. On cherchait des ministres de plus en plus égaux hommes-femmes, mais ça paraît mieux d'en avoir des plus jeunes que des plus vieux.
Peut-être. Puis en même temps, il y a aussi la question qu'on néglige souvent, c'est les atomes crochus avec le premier ministre. C'est le premier ministre, là, c'est sa prérogative.
Bon, oui.
Là. Il prend des gens, il va travailler étroitement avec ces gens-là, il faut qu'il ait confiance en eux. Ça faisait 4 ans qu'ils travaillaient ensemble. Visiblement, elle n'a pas réussi à convaincre ou à créer un lien suffisamment fort avec François Legault pour qu'il la juge incontournable. Mais ceci dit, sa réaction à elle par rapport à celle d'André Bachan donne aussi des indications pour la suite. André Bachan, il fait quoi? Il se retrouche les manches, il crée des liens avec les ministres qui sont responsables de la région, il s'occupe de ses citoyens comme il faut, il prend du leadership, même s'il n'est pas ministre, on verra peut-être qu'il sera adjoint parlementaire. Puis tu sais, il va y avoir un remaniement à un moment donné. Puis le premier ministre, il va se tourner vers qui? Il risque de se tourner bien plus vers celui qui a tenté de faire ses preuves que vers celle qui a eu une réaction d'amertume puis très émotionnelle.
Il y a beaucoup de nouveaux joueurs avec la CAQ, OK?
Ouais.
Et veut pas, ça vient avec la job. C'est pas parce que t'es incompétent, c'est pas parce que tu... Mais à un moment donné, tu te mets deux pieds dans la bouche. Puis là, ben il faut trouver un autre joueur, il faut te remplacer parce que là, publiquement, t'es plus présentable, t'as un dossier qui est pas défendable pour le moment.
Et le meilleur
exemple,
besoin
de joueurs sur le bord, là.
En 2012, quand Mme Marois avait composé son conseil des ministres, rappelez-vous Yves-François Blanchette, il était devenu ministre responsable des régions de Centre du Québec et de Mauricie, mais pas ministre en titre d'un ministère. Il avait laissé poindre un peu de déception.
Il avait bougonné un peu.
Ouais, il avait bougonné un peu, mais finalement, il avait pris ses responsabilités de whip aussi au sérieux. Il avait commencé son travail. Quelques semaines plus tard, même pas 2 mois plus tard, si je me rappelle bien, Daniel Breton, ministre de l'Environnement, était pris dans toutes sortes d'allégations sur son passé, puis ses appartements, puis des loyers pas payés. Pouf, paf, boum, forcé de démissionner. Et François Blanchette est devenu ministre de l'Environnement et il l'a été jusqu'à la fin.
C'est très improbable. T'sais, entre toi et moi, là, Daniel Breton, quelle crédibilité quand tu parles d'environnement? Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Il est très, très bon. T'sais. Puis c'est un gars qui vend bien sa salade, mais il est tombé dans la mauvaise stalle. Il n'a pas la bonne affaire. Alors, bravo, M. Bachan.
C'est pas ce qui comme il faut. Mais
bravo,
M. Bachan fait les bonnes affaires pour la suite des choses.
Isabelle Fontaine, j'ai envie de te poser la question sur la série de colis suspects aux États-Unis, les poudres, les tentatives de bombes et tout et tout. Achètes-tu la thèse que j'ai entendue hier, selon laquelle ce pourrait être des envois volontaires démocrates?
Non. Il y a toujours des gens pour la théorie du complot. Moi, je suis vraiment pas là-dedans. Je n'achète pas du tout cette thèse-là. Je veux dire, les démocrates, là, ils sont dans une situation où ils ont déjà suffisamment de problèmes à l'interne. Là, la génération qui monte, il y aura des contestations, il y a de la misère à identifier qui sera la personne qui fera la suite. Fait que de là à être ensemble en train de comploter pour envoyer des colis suspects, là, moi, je crois pas ça.
Ajoute le fait que, tu sais, en instabilité, qui tu favorises? Le gouvernement en place. Moi, je vois pas le lien. Moi, je vois pas l'idée démocrate de dire envoyons des signaux de déstabilisation. Ça, en général, là, quand l'économie crache, en temps de guerre, les gens ont toujours une tendance à voter pour le gouvernement en place, pour le parti en place. Je vois pas encore ça.
Non, moi, je pense que c'est du spin, c'est une hallucination.
On a affaire à quelqu'un
avec un esprit un peu dérangé.
Bon week-end, Isabelle.
Bon week-end à lundi.